Bonsoir à tous. Un jeudi de mobilisation et de galère contre la réforme des retraites. 9 TGV sur 10 annulés, 8 TER sur 10, 11 lignes de métro interrompues à Paris, 30% des vols intérieurs d'Air France aussi, 15% des moyens courriers. L'Assemblée ne siégera pas le 5 décembre. Au sommaire également ce soir, l'entente de façade de Trump et de Macron au sommet de l'OTAN à Londres. Inondation ou feu de forêt, l'avertissement de l'ONU à la COP25 face aux phénomènes météo extrêmes. Un mois de janvier sans alcool, mais sans le gouvernement. Le départ de Bernard Pivot de l'Académie Goncourt, vous l'entendrez. Et au téléphone sonne Fabienne.
Mais on va essayer la pause optimiste ce soir. Sébastien, on va parler environnement avec un homme qui cherche des idées technologiquement viables partout dans le monde. Il s'y connaît, c'est Bertrand Piccard, l'homme de Solar Impulse, de la fondation Solar Impulse, qui va donc chercher des idées là où elles sont, là où on les invente. Ça se passe aussi sur franceinter.fr et au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est l'Élysée qui a d'abord parlé du mur du 5 décembre. Ce jeudi de grève contre la réforme des retraites, eh bien le mot n'était pas trop fort au regard de ce qui s'annonce dans les transports. La SNCF a fait les comptes et ça a été vite fait, Maxime Debs. Seulement 10% du trafic assuré.
Avec un trafic qui sera extrêmement difficile sur toutes les lignes, pas d'exception, des TGV 1 sur 10 au transport dit du quotidien, 3% des TER. On en est désolé, regrette Agnès Augier, directrice de la communication à la SNCF.
On a néanmoins essayé d'affréter des bus qui nous permet de faire une liaison sur 5, mais avec très peu de trains. Sur Transilien, en journée, il y a vraiment, sur certaines lignes, pas de train.
C'est simple et déjà une certitude. La mobilisation de jeudi s'annonce déjà supérieure à celle de l'an dernier contre la réforme ferroviaire. Et face à ça, la SNCF va tenter, autant qu'elle peut, dit-elle, de limiter la gêne occasionnée.
Notre engagement, c'est de construire les plans de transport de façon à donner les informations utiles à nos clients la veille, avant 17h, sur tous les canaux, pour chaque jour du lendemain.
L'entreprise qui se garde bien de faire des prévisions pour les jours à venir, trop tôt, même si tout le monde, au siège de la SNCF, s'attend à ce qu'il soit difficile.
Prévision tout aussi sombre pour les Parisiens à la RATP. 11 lignes de métro fermées. Tous les détails sont sur franceinter.fr. Sans oublier les personnels au sol d'Air France. La compagnie annule 30% de ses vols intérieurs et 15% de ses moyens courriers. Et il pourrait y avoir des retards également avec le mouvement des contrôleurs aériens. On est assez loin de l'appel d'Emmanuel Macron aujourd'hui à l'esprit d'équipage des marins qui prennent la mer, dit-il, et laissent les désaccords derrière. Côté pratique encore, les commerces seront fermés sur le parcours de la manifestation jeudi à Paris entre les gares du Nord et de l'Est et Nation. La préfecture redoute des violences et des dégradations. Et puis, autre conséquence de cette mobilisation du 5 décembre, l'Assemblée ne siégera pas jeudi. Pas de séance par peur du vide, Maxence Lambrecq. Et évidemment, cela fait débat.
Décision exceptionnelle, une première dans cette législature, aucune séance ce jeudi et cela énerve la droite. Le patron des députés LR, Damien Abad, y voit déjà un cadeau offert aux grévistes.
Ici au Parlement, on se doit de montrer l'exemple et je ne vois pas au nom de quoi on reporterait les travaux du Parlement, surtout que ce n'était pas la position initiale qui avait été arrêtée en conférence des présidents. Je regrette et je déplore effectivement cette position.
Les prévisions de trafic ont fini par convaincre le président Richard Ferrand, décision saluée par le porte-parole du RN, Sébastien Chenu, et le communiste Sébastien Jumel.
Si personne ne peut venir siéger, c'est très difficile de débattre dans un hémicycle vide. Donc je pense qu'un peu de bon sens ne tue pas.
Et donc c'est sage que le président Ferrand ait décidé de mettre en grève forcée le Parlement.
Ils seront d'ailleurs tous les deux dans la rue. Qu'aurait dû examiner l'Assemblée ce jeudi ? Des propositions de loi socialistes. C'est d'ailleurs le PS qui a réclamé ce report, précise le marcheur Olivier Véran.
C'est prévu depuis 6 mois que le jeudi 5 décembre, c'est un hasard, mais c'est comme ça, le groupe socialiste devait faire examiner un certain nombre de propositions de loi. Nous, on était prêts. Hein. Ils ont demandé qu'on puisse reporter cette journée parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise sur une journée de grève. On leur a dit d'accord. Donc c'est plutôt un geste d'ouverture de la majorité vers l'opposition. Donc voilà, c'est pas du tout un problème. Il y a plein de commissions qui se réuniront demain et jeudi.
En effet, les commissions restent actives et les députés reviendront, si possible, lundi prochain dans l'hémicycle.
Ça va mieux du côté des dépôts pétroliers. Encore 2 bloqués dans l'Ouest par les entrepreneurs du BTP qui protestent contre la fin progressive de leur avantage fiscal sur le gazole non routier. Les gendarmes sont parfois intervenus. Brest, Rennes et La Rochelle sont libérés et les pompes vont donc être réapprovisionnées. Ce qui n'a pas empêché certains, Yann Gallic, de prendre les devants.
Aux portes de Paris, les files de voitures, de motos et de scooters commencent à s'allonger devant certaines stations-service, avec des automobilistes qui ont parfois eu peur d'une éventuelle pénurie de carburant, comme Franck. Il habite dans l'Eure, mais il travaille en région parisienne.
Malheureusement, j'ai besoin d'essence pour rouler, donc c'est pas évident et Il y en a encore un peu sur l'autoroute, mais des gens comme moi qui font 200 km par jour, la première station qu'on voit, ben on s'arrête et on prend. Donc je vais faire le plein, quoi, pour pouvoir tenir la semaine, pour pouvoir continuer à bosser, on va dire.
D'autres préfèrent prendre les devants en prévision de la grève du 5 décembre. Elisabeth est même venue remplir des bidons d'essence à la station-service.
J'ai une voiture et un scooter et j'ai pas envie de faire la queue deux fois. Donc voilà, je prévois. Mais il y a déjà des pénuries de sans-plomb là, donc visiblement j'ai bien fait. On verra bien, mais enfin bon, je m'organise quand même.
Le mouvement social de jeudi aura des conséquences sur le trafic routier qui risque d'être beaucoup plus dense que d'habitude, notamment en Île-de-France.
Et puis à la page écho, encore 9e jour de grève à Radio France, avec toujours des antennes perturbées, dont celle d'Inter. La pétition lancée par des collaborateurs de la Maison Ronde, faire plus avec moins ne marche nulle part, est désormais ouverte sur change.org. Elle a déjà été signée par plus de 23 000 personnes.
Le sommet de l'OTAN s'est ouvert près de Londres.
Dîner ce soir chez la reine d'Angleterre pour tenter de faire revenir tout le monde à la raison. Après les menaces d'Erdogan, la marche arrière de Trump et la mort cérébrale diagnostiquée par Macron, Bertrand Galichet ses propos plus posés tout à l'heure en conférence de presse des présidents américains et français.
Mâchoire serrée, assis à côté d'Emmanuel Macron dans le salon de la résidence des États-Unis, Donald Trump semble d'abord prêt à en découdre. En réalité, le ton de la rencontre est assez courtois, mais sans concession. Le président français demande une redéfinition de la stratégie de l'organisation et assume le dialogue entamé avec Moscou.
Je n'ai aucune naïveté à l'égard de la Russie. Et nous sommes très conscients sur les attaques cyber qu'il y a pu avoir, sur les conflits gelés qu'il y a aux frontières de l'Europe, et y compris sur la crise ukrainienne que nous vivons. Est-ce que le statu quo est la meilleure des options ? Je ne crois pas.
Le président français exige surtout une clarification du rôle ambigu au sein de l'Alliance de la Turquie, accusée par la France de combattre les Kurdes, nos alliés. Également au cœur du débat, l'achat par les Turcs de missiles russes S-400, situation que Donald Trump impute à son prédécesseur à la Maison-Blanche, qui aurait refusé de vendre à Ankara un système américain.
Turkey, for a long period of time, wanted very much to buy the Patriot system, which is our system.
La Turquie a longtemps voulu acheter nos missiles Patriot compatibles avec l'OTAN, affirme le président des États-Unis, beaucoup moins critique envers Recep Tayyip Erdogan. Quant au différend commercial entre Paris et Washington sur la taxation des GAFA, Donald Trump parle d'un problème mineur sans rien céder. Londres, Marcos Daras, Bertrand Galichet, France Inter.
Et sur ce sujet des menaces américaines de surtaxe sur les produits français, précisément champagne, roquefort, maroquinerie, cosmétique, en réponse à la taxation des GAFA, Bertrand en parlait, eh bien, on espère que la messe n'est pas dite, reconnaît le secrétaire d'État au numérique, Cédric O. Un ingénieur de Thalès assassiné en pleine rue à Bogota, l'homme de 45 ans était en mission dans la capitale colombienne pour le groupe de technologie et de défense. Il a été tué par balle et par derrière par un homme qui a pris la fuite. Le cimetière juif de Westhoffen, près de Strasbourg, profané, des croix gammées, notamment sur 107 tombes au total. Actes abjects et répugnants, écrit Christophe Castaner sur Twitter.
La mer monte, l'océan devient plus acide.
La banquise arctique diminue, la calotte du Groenland fond. Il y a des inondations, des sécheresses, des canicules, des feux de forêt. Et ce n'est pas un film catastrophe, c'est une nouvelle alerte des scientifiques. Alors que la COP25 vient de s'ouvrir à Madrid, 2019 sera l'une des trois années les plus chaudes enregistrées depuis 1850, selon l'Organisation Météo Mondiale. Conclusion d'une décennie de chaleur exceptionnelle, dit-elle, avec des événements Sandy Dauphin, météo extrêmes de plus en plus nombreux.
46 degrés enregistrés cet été en France, la canicule en Europe, mais aussi les inondations en Iran, les sécheresses en Australie et en Amérique latine. L'année 2019 a connu son lot de records. Désormais, les feux de forêt se produisent dans des endroits inhabituels, en haute latitude, Sibérie, Alaska et en 2018 en Suède. Le pays a été pris de court, explique le ministre suédois de l'aide au développement, Peter Eriksson.
Les incendies étaient terribles l'année dernière. Nous n'avons jamais vu de tels événements météo extrêmes en Suède. 250 km carrés.
Ces phénomènes météo extrêmes de plus en plus fréquents menacent la sécurité et la santé des gens, mais aussi la sécurité alimentaire de certaines régions. Le docteur Nurul Qadir fait partie de la délégation du Bangladesh à la COP25. Il se souvient des inondations l'année dernière dans le nord-est de son pays.
All on a sudden, flood came. That was the time for harvesting.
Les inondations sont arrivées tout à coup. Au moment de la récolte, tout a été recouvert d'eau. Les paysans ont eu d'énormes pertes. Face aux pertes, le gouvernement a dû importer du riz. La nature a changé de manière drastique.
En 2019, le rapport estime que 22 millions de personnes à travers le monde auront été obligées de quitter leur zone d'habitation en raison d'une météo devenue folle.
Et Greta Thunberg est arrivée de son côté à Lisbonne après 20 jours sur un catamaran de 14 mètres pour venir des États-Unis. La militante suédoise du climat ne prend plus l'avion, elle vient participer à la COP à Madrid. Elle est publiée tous les 3 ans depuis 2000 et elle est considérée comme une référence mondiale. L'étude PISA de l'OCDE qui évalue les compétences des élèves de 15 ans en sciences, en maths, en compréhension de l'écrit. 600 000 jeunes de 79 pays testés et à l'arrivée plusieurs pays asiatiques sur le podium dans les 3 classements. La Chine avec Pékin et Shanghai devant Singapour et Macao. La France est juste au-dessus de la moyenne des pays riches, souffre toujours des mêmes problèmes, pas assez de suivi individuel, manque de discipline en classe notamment. Certains pays ont beaucoup progressé depuis la dernière édition, l'Estonie, la Pologne et le Portugal. Les détails sont sur le site de France Inter.
C'est une opération qui existe en Angleterre depuis 6 ans.
Un mois de janvier, sans alcool, une pause après les fêtes et globalement dans la consommation. Les médecins et une vingtaine d'associations voulaient faire la même chose le mois prochain en France. Bonsoir Daniel Messager.
Bonsoir.
Mais ce sera sans le soutien de l'État.
Eh bien, on s'en passera, disent en substance les associations. Elles sont nombreuses. Elles regroupent des patients, des médecins, des jeunes, comme la FAGE, Fédération des associations d'étudiants. Le gouvernement a cédé au lobby de l'alcool, affirme-t-elle, puisque cet événement était prévu et a été annulé. Donc, il faut passer à la deuxième phase. On a dénoncé, maintenant, agissons. Le professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, l'alcool est la deuxième cause de cancer évitable après le tabac.
On ne va pas attendre, on ne va pas se mettre tous à prier pour que la puissance publique consente à prendre ses dispositions. La société civile, de plus en plus, c'est dans l'air du temps, prend son destin en main. L'objet est de dire, on a bien bu, voilà, à Noël et au jour de l'an, on n'a rien à dire. On n'est pas une ligue de vertu, on n'est pas une ligue de prohibition. Mais essayez de faire le test, regardez si vous ne vous sentiriez pas mieux en essayant de ne pas boire pendant un mois. Et là, modifiez votre consommation si vous vous trouvez mieux. Eh bien ça vaut la peine qu'on l'essaie.
Au Royaume-Uni, après plusieurs années de recul, on constate des bienfaits sur la santé, bien sûr, tension, cholestérol, mais aussi sur le sommeil, la concentration. Évidemment, on fait des économies, sans compter les bénéfices sociétaux, moins de violences générées par trop d'alcool, violences faites aux femmes en particulier.
Merci Daniel Messager. On termine avec une retraite. En même temps, il a l'âge, Pivot, Bernard Pivot, qui se retire de l'Académie Goncourt. 15 ans qu'il en faisait partie, 5 ans qu'il la présidait, mais à 84 ans, il a besoin de temps.
Il est prudent, il est sage quand on arrive à un âge aussi canonique de laisser sa place à plus jeune et puis de se retirer alors qu'on est encore assez lucide pour en prendre la décision. Et vous savez, c'est comme un poste 3 que je suis parti au bout de 15 ans, c'est une décision personnelle. Donc je peux évidemment regretter, mais ça ce sont les regrets de la vie. On peut regretter aussi de ne plus être jeune, de ne plus avoir la vie devant soi, ce sont des regrets continuels. J'ai envie de reprendre une gestion libre, tranquille de mon temps, notamment pendant l'été. J'ai plus beaucoup d'été devant moi, à 84 ans. Et donc là, c'est un choix un peu égoïste. C'est-à-dire de dire, je préfère, pour les dernières années qui me restent, privilégier mon plaisir de vivre, d'exister, d'avoir des relations avec mes proches, profiter du soleil, de la mer, plutôt que de continuer de lire mes jeunes confrères.
Et peut-être en profiter aussi pour s'acheter un téléphone. Merci Bernard Pivot, joint par Ercine Lebovitch de France Info. Le départ de Bernard Pivot de l'Académie Goncourt sera effectif au 31 décembre, Fabienne.
Merci beaucoup Sébastien Paour.